Travailleurs, chers amis, chers camarades, vous le savez tous, nous avons encore l'obstacle des 500 parrainages. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis plus sûre d'être candidate que Fillon. Parce que vous avez bien sûr tous suivi ces démêlés. Et les révélations accablantes contre Fillon. Vous avez suivi aussi sa défense ridicule. Il répète en boucle qu'il n'a rien fait, comme si c'était cela le problème. Fillon ne se rend même pas compte du décalage qu'il y a entre ses leçons de morale et ses propres actes. Il est révélateur d'une classe politique socialement étrangère à la classe ouvrière et qui est hostile aux travailleurs. Ce sont les mêmes comportements, la même arrogance que l'on retrouve dans le monde bourgeois, avec ses PDG et ses grands actionnaires qui n'ont de cesse de dire aux travailleurs qu'ils ne travaillent pas assez et qu'ils sont trop payés, alors qu'eux-mêmes empochent des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois sans rien faire de leurs 10 doigts. Alors oui, Fillon est bien à l'image de ces gens-là. Mais pour se faire élire, il fallait qu'il le cache. Là, ça n'a pas marché. Alors oui, il est disqualifié aux yeux même de son électorat. C'est pas nous qui nous en plaindrons. Mais regardez comment en face, à gauche, les Hamon ou les Macron cherchent encore à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont participé au quinquennat de Hollande, qui a entériné les reculs sur les retraites, qui a augmenté la TVA, qui a aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail, à licencier. Et les voilà aujourd'hui qu'ils nous promettent de tout changer. Macron ou Hamon s'érigent en petits nouveaux de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche, c'est la remise des bus sur les routes, c'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés, sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh bien sûr, ces auto-entrepreneurs sont libres, oui, mais ils sont libres surtout de s'auto-exploiter pour le compte des grands groupes capitalistes. Quant à Hamon, il se singularise avec sa proposition du revenu universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022, et même peut-être pour le quinquennat d'après. Parce qu'il part du point de vue qu'il y aura de moins en moins de travail, du fait de la robotisation, et donc de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, ce n'est pas seulement du salaire, c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Alors oui, il faut rejeter ce type de charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards d'euros de dividendes donc à leurs actionnaires en 2016. La fortune d'un Bernard Arnault, patron de LVMH, a augmenté de 7 milliards d'euros en une seule année. Alors non, ce n'est pas l'aumône que nous voulons, c'est une politique qui réponde à nos intérêts. Avoir un travail et un salaire, le droit d'être soigné et d'être logé dignement, le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation et le droit d'avoir une retraite décente. Et puis, il y a encore l'extrême droite. Ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise, attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre les entreprises compétitives, elle justifiera, comme tous les autres, l'allongement du temps de travail, le blocage, voire la baisse des salaires et la réduction des cotisations patronales et de leurs impôts. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidat anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et les plus pauvres, à condition, bien sûr, qu'ils soient français. Parce que Le Pen est une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Elle s'indigne, par exemple, de ce que l'on donne 11 euros par jour à un demandeur d'asile, mais pas qu'un PDG comme Carlos Ghosn, chez Renault-Nissan, gagne 45 000 euros par jour. Pas qu'une bourgeoise comme Bettencourt empoche 1 million par jour, sans rien faire. Elle se dit aussi révulsée de ce qu'on héberge des migrants plutôt que des SDF français. Elle ne s'indigne pas qu'il puisse y avoir des SDF. Non, elle estime qu'il y a deux catégories de sans-abri et qu'il y en a une qui peut très bien crever. Alors non, quand on appartient au monde du travail, voter pour Le Pen, Hamon ou Macron, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts et c'est tendre le bâton pour se faire battre. Tous sont respectueux de l'ordre capitaliste et du monde bourgeois. Et une fois au pouvoir, eh bien, ils gouverneront pour le compte de la bourgeoisie. À l'opposé de tous ces candidats, je me présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, de ceux qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions de plus en plus dures, tout en étant payés une misère, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays et qu'ils ont des droits pour lesquels ils veulent se battre. À l'opposé des Le Pen, Hamon, Macron ou Fillon qui se préparent à servir la bourgeoisie, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, Dassault, Peugeot, Michelin, parce que leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour ce grand patronat, c'est 20% de moins pour les travailleurs. Parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos retraites ou de nos salaires. Ce sont leurs sinécures ou nos emplois. C'est le pouvoir de ce grand capital ou le pouvoir des travailleurs et il n'y a pas d'entre-deux. Il faut choisir son camp et le nôtre, c'est celui des travailleurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs qui doivent travailler pour gagner leur vie et qui ont à se battre eux aussi en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas par exemple des chauffeurs VTC contre la plateforme Uber, c'est le cas des agriculteurs contre la grande distribution. Et je le précise aussi parce que dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats, il ne s'agit pas seulement des travailleurs français. C'est une spécialité de Le Pen que d'opposer les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité et de leur confession. Elle sème ainsi la haine et le rejet de l'autre et favorise en retour le repli communautaire. Alors, dans cette élection, je dirais qu'au-delà de notre origine, de nos croyances et de notre couleur de peau, un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignantes, des caissières, des enseignants. Alors, il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous et il faut exprimer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Et il faut, dans ces élections, affirmer nos intérêts, nos besoins, notre politique. Et faire entendre nos intérêts à l'opposé de la politique pro-patronale des autres candidats est ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai prochain sera un ennemi des travailleurs. Pour nous, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans cette comédie-là. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien, ne laissons pas le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous, disons tout le mal que l'on pense de cette société capitaliste. Et parallèlement à cette comédie électorale, mettons en avant nos idées, notre propre politique, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez PSA. PSA, Peugeot Citroën, a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore aujourd'hui. Tous ces grands groupes se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciements. Mais c'est autant d'emplois qui disparaissent. Et au final, cela fait des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Alors oui, il faut commencer par stopper tous ces grands fabricants de chômeurs. Et je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces groupes capitalistes et que les banques soient mises à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Et puis parallèlement à ces deux mesures, il faut créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci par-là, et pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter maintenant le temps de transport, sont devenus insoutenables. Et il faut soulager tous ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement le contraire de ce qui se passe dans presque tous ces grands groupes, chez IBM par exemple ici, en imposant des plans de compétitivité, en imposant des heures supplémentaires et des samedis travaillés obligatoires. Et puis regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières, trop d'aides-soignants dans les hôpitaux ? Regardez la catastrophe qui est l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'ingénieurs, de peintres en bâtiment ? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans cette société et il y a autant d'emplois à créer pour y répondre. Certains nous expliquent qu'avec la modernisation des moyens de production et les gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Parce que ces robots et ces gains de productivité devraient au contraire permettre de soulager les salariés, de baisser les cadences et le temps de travail de tous. Mais cela suppose que l'on fasse passer les intérêts des travailleurs et de l'ensemble de la population avant les profits d'une minorité. Si nous laissons faire le patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais c'est 7, 8, 9 millions de chômeurs. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs essentiels, vitaux pour toute la société. Parce que le chômage est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise. Mais il pousse aussi à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. puis à côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent tous qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé d'augmentation du SMIC payé par les entreprises et par le patronat. Tout ça parce qu'elle ne veut pas créer de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont les millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir. Les privations qu'ils s'infligent, justement parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas, elles. Les Le Pen et les autres candidats s'en moquent. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires et pour l'augmentation du SMIC. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou pour le crédit logement, et parfois davantage. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et puis en plus de tout ça, il faut payer les impôts, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et les autres articles de consommation courante. Et avec les enfants, c'est encore bien plus serré. Alors, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, ils doivent être transformés en salaire. Parce que, je l'ai déjà dit, tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile. En fait, ces 1 800 euros ne sont qu'un rattrapage. Parce qu'il y a 10 ans, le SMIC net était de 1 000 euros. Aujourd'hui, il est de 1150 euros. Cela équivaut donc à une augmentation de 15% en 10 ans. Savez-vous de combien les salaires des PDG, des grands PDG, ont augmenté en 10 ans ? De 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires et les pensions de retraite suivent l'augmentation du coût de la vie, celle des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts, des taxes, des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance pour se rendre compte que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Alors sur toutes ces mesures, de bonnes âmes, souvent payées bien plus que 1 800 euros, m'ont déjà expliqué que c'était complètement impossible et même que c'était de l'utopie. Je parle de 1 800 euros par mois et on me parle d'utopie. C'est donc de l'utopie d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro. C'est de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer des études à ses enfants. Mais les Carlos Ghosn, les Tavares, les PDG des grandes entreprises, les Arnaud, les Bettencourt, les Fillon et toutes leurs assistantes et leurs assistants, ils vivent dans le monde réel. Ils vivent dans notre monde. Alors dire que 1 800 euros, c'est de l'utopie, c'est un choix de classe. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Pour y parvenir, il faudra en effet renouer avec les luttes collectives puissantes et imposer un nouveau rapport de force avec le patronat. Un rapport de force tel qu'ils prennent peur et qu'ils cèdent sur ces revendications. La société est riche, très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, la loi est faite pour les couvrir. Regardez le groupe Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins et que c'est 2000 emplois sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe ? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Un gérant de magasin y est payé 1400 euros net et tous les autres salariés sont payés autour du SMIC. Ce qui a tué Vivart, ce sont les fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui l'ont forcé à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît ? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds capitalistes, à un taux d'intérêt de 11%, de 12%. Si les salariés du groupe avaient connu toutes ces manœuvres financières, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et ils auraient pu mieux se défendre. Il est de bon ton aujourd'hui pour les politiciens de parler de transparence, mais ils empêchent les travailleurs de l'imposer. Regardez, y compris les journalistes, hein, quand ils lèvent des lièvres, eh bien vous entendez tous les politiciens s'indigner. C'est ce qui se passe avec Fillon, par exemple. Alors Fillon est offensé qu'on lui demande des comptes aujourd'hui. Mais des comptes, les travailleurs sont sommés d'en rendre en permanence, au moindre entretien d'embauche, à la moindre lettre de motivation. On est inspecté sous toutes les coutures. Et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Et c'est pareil pour les chômeurs qui doivent s'expliquer sur toute leur recherche d'emploi, qui doivent fournir des preuves justifiées de leur demande s'ils veulent repousser un rendez-vous. Alors oui, il nous faut demander des comptes à tous ces politiciens. Et plus décisif encore, il nous faut pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. De fait, les salariés savent tout de ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG. Enfin, à la vraie assistante hein, du PDG. Pas un de ces courriers ne lui échappe, tout simplement, parce que c'est elle qui le prépare, c'est elle qui le tape, c'est elle qui l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans les entreprises. Les patrons le savent très bien. Et ils le craignent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont imposé le secret professionnel. Eh bien, nous, il nous faut revendiquer la suppression de ce secret. Cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Nous saurions à quoi nous en tenir et nous pourrions anticiper, nous organiser face aux attaques patronales. Et puis aussi, on mesurerait l'ampleur de ce que rapporte l'exploitation. Et on verrait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous les grands groupes qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps sur l'économie. Alors, voilà notre programme. Ce n'est pas comme tous les autres candidats un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. C'est un programme de survie pour les couches populaires. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Et nous sommes prêts à la combattre jusqu'au bout. Contrairement aux autres candidats, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte, nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat et nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Le premier tour de cette élection présidentielle nous en donne l'opportunité, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans bien des esprits, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent aussi après les élections. Parce que les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts à un moment donné. Ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes sociales, aux intérêts inconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux, les travailleurs, qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui au monde du travail. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique qui est plaisante aux oreilles. Mais concrètement, regardez sur quels engagements elle découle. Mélenchon promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1 326 euros, les vrais 35 heures. Mais même ces quelques promesses à destination des travailleurs sont des promesses en l'air. Parce que tant que l'on ne dit pas comment on l'imposera au grand patronat qui décide de tout aujourd'hui, tant que l'on ne se dit pas prêt à arracher ce pouvoir à la minorité capitaliste, eh bien on parle pour ne rien dire. Car il est bien beau de dénoncer la finance, mais je vous le rappelle, Hollande l'avait fait superbement en 2012. Alors le problème, c'est de dire si l'on est prêt, oui ou non, à renverser cette finance. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie et pas la propriété privée sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris avec Dupont-Aignan et avec Le Pen, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Tout ça, ce sont des mots en l'air. Parce que les seuls souverains dans notre société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on est exploité, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle de l'Europe. On est dépendant de cette classe capitaliste qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Alors parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe et de faire croire aussi qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs et la bourgeoisie de la France. Alors, laissons ces mots d'ordre aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas l'œuvre d'un sauveur suprême. Alors bien sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi, y compris parce qu'il est compatible avec le système, parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribuer à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement, qui n'existe que pour porter sa candidature à la présidentielle, eh bien, notre campagne nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Oui, ce sera un vote qui sera constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses, y compris les super-profits. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous pouvons être fiers d'appartenir à la classe des travailleurs, nous sommes indispensables. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie. Mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez d'ailleurs les Bernard Arnault sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans les salariés qui font fonctionner les trains, les avions. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune ? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Ils ont réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur sa tête. Il a mis fin aussi, et c'est sans doute le plus important, à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous sa domination, sous la domination de la Russie, de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux de pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela ? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et en caricaturant, et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir imposer une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la déchéance morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement et à la haine de l'autre. Et il fait aussi le lit de la délinquance et de ce fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. À ce propos, je tiens à affirmer ma complète solidarité avec les femmes et les hommes de la région qui offrent un toit, un repas chaud aux migrants et qui les aident à faire valoir leurs droits. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont poursuivis par la justice, arrêtés, gardés à vue, parce qu'ils se comportent tout simplement humainement. Ils sont accusés de délit de solidarité. Eh bien, si être humain est un délit, vive le délit d'humanité. Ouais. Et puis sur le fond, je voudrais revenir sur cette question des frontières. Parce que là-dessus, vous le savez, les principaux candidats sont d'accord. Il faut que les frontières soient de plus en plus hautes et de plus en plus étanches. Et tous de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Et vous le savez, vous, ici. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent est gaspillé dans la spéculation que l'on compte à dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. En réalité, la misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et par leurs bombes. Ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde exactement comme ils nous disent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous, qu'on ne peut pas accéder à la retraite à 60 ans. Alors, en tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels et notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour que l'on se partage la misère. C'est au contraire d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est donc de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toute religion et de toute couleur de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, ils représentent la seule force sociale, capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et aussi débarrassée du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Alors voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Et regardez aujourd'hui comment on parle des travailleurs, quasiment comme une espèce en voie de disparition. Mais nous sommes quoi? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont-ils composés de rentiers? Non, bien sûr, de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers d'être indépendants il y a un an ou deux, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être salariés, embauchés avec des contrats de travail. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée. Il y avait beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les entreprises, dans les bureaux. Mais encore une fois, il faut que la classe ouvrière, que l'on a vue s'exprimer dans la rue, s'exprime aussi sur le terrain politique. On nous met dans la tête que cette élection doit servir à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour choisir le PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez à cette élection-là? Eh bien, dans cette élection, on nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté au patronat pour nous exploiter, qui baissera nos conditions de vie et de travail. Alors, il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses idées, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire ou d'être à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012? Et il faudra encore recommencer avec un autre? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire, pour essayer de se protéger, est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement, s'il ne renoue pas avec des luttes puissantes. Quant à s'abstenir, ce n'est pas non plus une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits combats. Quand on est minoritaire, au contraire, la moindre voix compte et peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de Lutte ouvrière. Les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom. Et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais il ne s'agit sûrement pas d'une campagne personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Mais en quelques minutes, je ne ferai pas de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus et je toucherai peut-être aussi tous ceux qui sont révoltés par la situation, mais qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. C'est déjà quelque chose d'important, parce qu'une campagne comme celle-ci, relayée à l'échelle nationale, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, eh bien, il y a quelques centaines de milliers qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp, et elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. Alors bien sûr, c'est quelque chose d'important. Mais plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique et sûrement pas de voter. Ils sont dans nos familles. Ce sont nos amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions de femmes et d'hommes sont confrontés. Et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles. Pour que ce soit une campagne réussie, eh bien, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit aussi votre campagne. Alors pour finir, un petit effort d'imagination et de projection dans l'avenir. Au lendemain de l'élection, en mai prochain, qu'est-ce qui aura changé pour nous ? Nous irons au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et puis on se retrouvera confrontés au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout-puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement, quand bien même on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous. Parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter et elles ne changeront pas cet ordre social qui est dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui nous préparera le mieux aux luttes que forcément nous aurons à mener après mai 2017.